C'est quoi l'époque? Comme ça, les gens savent de quoi on parle. L'époque, c'est le son que ça fait quand tu te prends un coup de matraque. Poc, poc, poc.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en place l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le d'or.
Uno, all, two, vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
C'est lequel?
Uno, all, two, vous. Now, go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Deux récits d'apprentissage, deux plongées dans la jeunesse aujourd'hui. Celle qui rêve debout la nuit et celle le jour, qui interroge pour informer, bref, deux documents sur notre pays et sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde, les salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Pour tous les deux, c'était la première fois. Un candidat tout neuf et une jeune journaliste fraîchement débarquée au service politique de France 2. Bonjour Astrid Mesmorian.
Bonjour.
Votre première mission, et vous l'avez accepté, suivre la campagne présidentielle du candidat Macron en 2017. Deux mois de marathon filmé dans ce doc première campagne d'Audrey Gordon. Le protagoniste, c'est pas lui, mais vous, votre travail sur le terrain. Nous lui avons demandé de regarder vos débuts, lui qui sur France Inter chaque matin signe l'édito politique. Bonjour Thomas Legrand.
Bonjour.
Vous connaissez la chanson, le milieu, les coulisses, et nous attendons bien
c'est
sûr votre
quoi.
Avis sur cette première campagne. Merci d'être là aussi un samedi matin, Thomas.
C'est vrai.
Son film à lui s'arrête aux élections présidentielles. Entre 2015 et 2017, il a filmé la jeunesse, la nuit, leurs rêves, leurs cauchemars, leurs désirs d'avenir. Bonjour Mathieu Barrère.
Bonjour.
L'époque, votre premier film, un recueil de paroles, de gestes, d'attitudes pour capter une génération. À vos côtés, l'une de vos héroïnes, rencontrée au hasard, un bel hasard. Bonjour Rose Folly.
Bonjour.
Un idéal de liberté, dit de vous Thomas Barrère. Mathieu Barrère, pardon. Première campagne et l'époque sortent tous les deux mercredi prochain. Enfin, les films de cette semaine entre Grand Squelette et Genèse, Blanche comme neige, La Familière à Élise et Les Oiseaux de Passage. C'est parti.
Ça se passe bien ta première campagne? T'es heureuse?
Je crois que oui.
C'est marrant quand même.
Oui, hyper drôle, ouais. J'adore. Hyper drôle.
Et encore excellent. Cette campagne, elle est toute pourrie. Tu débats pas du fond, t'es pourri par les affaires.
Mais il y a des arrondissements.
Oui, mais t'es pas sur. C'est moins intellectualisé que les autres campagnes.
Ouais.
Alors que ça devrait l'être plus, puisque t'es sur un vrai changement de société. Hein. C'est est-ce qu'il y aura un candidat de l'ancien monde ou est-ce qu'on aura un candidat du nouveau monde? Les populistes qui sont aussi sur un nouveau monde, sur le dégagisme, sur que tous ces mecs là se barrent, au moins en termes de changement de gueule. Donc ça aurait dû être une campagne plus passionnante que toutes les autres. Et en fait, moi je trouve que c'est une campagne plus chiante que toutes les autres.
Plein de déplacements où je suivais Macron, j'avais vachement envie de lui poser des questions de fond. Mmh. Et en fait, je pouvais pas, parce que déjà, t'as pas l'espace pour. Mmh. Et d'autre part, c'est de toute façon parce qu'attend l'édition, vu qu'on a un angle très précis sur ce que tu viens de dire.
Évidemment.
Et du coup, hop, ça passe à la trappe complètement, quoi.
C'est la difficulté d'une campagne où le long terme, ça n'est que du court terme renouvelé, en permanence. C'est-à-dire, en gros, de quoi on a besoin aujourd'hui, de quoi on a besoin demain, de quoi on a besoin après-demain. Mais c'est à chaque fois dicté par le besoin du jour.
Astrid Mesmorian, je le disais, fraîchement débarquée à France 2, première mission, suivre la campagne présidentielle du candidat Macron. Dans ce film L'Époque, bienvenue au club, Astrid, pas vraiment encourageant, ce confrère journaliste, campagne toute pourrie, plus chiante que les autres, vous dit-il, ce qui n'affecte absolument pas votre enthousiasme.
Il n'y a pas grand-chose qui affecte mon enthousiasme.
Oui, j'ai moins l'impression
dans, dans la vie, c'est un peu mon moteur.
Ouais. C'est hyper drôle, j'adore, vous le dites.
Ah ben oui, mais c'est vrai. Mais lui parle à l'aune de son expérience passée. Mmh. Moi, je suis tout est nouveau, tout n'est que découverte et tout n'est que plaisir parce que j'ai ce plaisir de la nouveauté, de découvrir ce soi-disant nouveau monde. Hein, c'est les éléments de langage des macronistes. Pour moi, c'est totalement passionnant d'avoir un parallélisme de trajectoire avec ce candidat. Je me lance, il se lance, même si on est très différents, qu'il a son expérience et que j'ai la mienne. Ce parallélisme-là est incroyable et ce qui m'a plu, j'arrêterai là, ce qui m'a plu dans ce film, c'est le questionnement d'Audrey Gordon sur comment fait-on pour prendre du recul en pleine tempête.
Thomas Legrand, vous avez regardé le film, ça vous a rappelé votre première campagne à vous, c'était quand d'ailleurs?
Ça m'a rappelé ma première campagne, mais il y a beaucoup de différences. Ma première campagne, j'étais stagiaire, c'était pour RMC, c'était en 1988, mais je ne suivais pas comme Astrid un candidat, j'étais petite main, j'allais faire du son comme on dit, comme ça, à la pêche au son avec mon micro dans la foule, mais Ma vraie première campagne, c'est 1995.
Et alors,
donc, et ben alors, c'était, je suivais Jacques Chirac. C'était drôle parce que j'étais un petit jeune dans le service et le cadre du service, évidemment, avait décidé de couvrir parce que c'est un enjeu quand dans un service politique, on va couvrir celui qui va devenir président. Donc oui. Évidemment, il avait décidé de couvrir Édouard Balladur.
Bien sûr.
Et moi, on m'avait refilé le loser. On m'a refilé le loser. Voilà, je suivais l'extrême gauche et l'extrême droite en tant que tout petit nouveau, ce qui était très intéressant, moi, ce que je préférais. Ouais. Et là, on m'a donné Jacques Chirac, le loser de la campagne, et en fait, c'était évidemment très intéressant.
Quand Astrid Mesmorian parle de distance, c'est effectivement très important. Par exemple, Astrid, vous dites, on ne tutoie pas le personnel politique ni les politiques. Oui.
Il y a une scène avec Sibeth Ndiaye. Vous engueulez votre preneur de son parce qu'il tutoie Sibeth Ndiaye.
Je l'engueule avec tendresse.
Certainement. Ça fait des semaines que j'essaye de ne pas le tutoyer.
Et ça peut paraître anecdotique comme ça, parce que c'est un vieux débat, tutoiement, vouvoiement. Mais pour moi, si vous voulez, c'est un des seuls signes ostensibles que j'avais pour afficher ma distance. Donc j'y tenais et mordicus. Donc c'est pour ça que je dis ça à mon camarade qui pense pas mal faire du tout et qui est un garçon extraordinaire et un professionnel hors norme, vraiment j'insiste là-dessus. Mais voilà, c'était fondamental pour moi, surtout que je voyais que le tutoiement était quand même très banalisé.
Thomas Legrand, vous tutoyez les politiques?
J'en tutoie certains et j'en vous vois d'autres. C'est, de toute façon, la relation avec les politiques quand on est journaliste politique, c'est gérer quelque chose de contradictoire et très compliqué, la distance et la proximité. La proximité pour avoir des informations et la distance pour ne pas se laisser influencer et ne pas se laisser manipuler. Mais quand on commence très tôt, alors moi j'ai quitté la politique pour faire de l'étranger, du grand reportage correspondant, mais quand on commence très tôt la politique comme je l'ai fait et comme aussi Astrid le fait, on commence avec des gamins de nos âges. Au départ, des assistants parlementaires qui deviennent ministres.
Ouais.
Donc, il faut se mettre des limites. Tout le monde ne s'en met pas, mais j'ai l'impression que les jeunes s'en mettent un peu plus qu'à mon époque. Et en tout cas, nous, on s'en mettait plus qu'avant. Faut pas dîner, par exemple, on peut déjeuner, parce que déjeuner, ça a un caractère de travail, mais pas dîner. Ça paraît complètement débile.
Ah oui,
c'est vrai. Déjeuner, c'est pas trompé.
Non, c'est ça. Je mets cette limite qui est aussi débile qu'une limite et c'est aussi débile qu'une frontière. Mais moi, quand je dîne avec quelqu'un, je bois un coup avec lui, je parle de ma vie privée, je parle des enfants, j'ai pas envie de faire ça avec les politiques parce que je peux pouvoir les désinguer demain, je peux pouvoir enquêter sur eux et je ne veux pas faire ça avec des gens qui deviendraient des potes. Voilà.
Parfois la pression est grande, hein, Astrid Mesmorian, et puis parfois les angles qu'on vous demande d'aborder sont surréalistes.
Bonjour, vous dérangez, je suis journaliste pour France 2. On a une recherche un peu spéciale, on cherche des gens qui ne sont pas encore tout à fait convaincus par Emmanuel Macron.
Ah bah parfait, je ne suis pas convaincue du tout.
Je rigole, mais qui en l'occurrence serait convaincu par Benoît Hamon a priori.
Ah non.
C'est pas votre cas?
Non.
En fait, je cherche des gens qui a priori auraient plus envie de voter Hamon, mais qui viennent se faire une idée sur Macron. C'est votre cas ou pas du tout?
Pas du tout, pas tellement.
Pas tellement ou pas du tout?
Pas du tout.
Ok, merci beaucoup. Vous pourriez voter pour Hamon là aujourd'hui?
Oui.
Ok, parfait, j'arrive. Vous me donnez deux secondes ?
Mais est-ce qu'on peut résumer, dites-moi si je me trompe, est-ce qu'on peut résumer votre pensée en disant que finalement, votre vote de cœur, ce serait Hamon, mais qu'avec tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire la montée de Marine Le Pen, une certaine dynamique créée pour l'instant par Emmanuel Macron, vous pourriez vous dire que le vote utile, c'est lui ?
Non.
Non.
Pas. Non, non.
D'accord. Il n'y a aucun hamoniste ici ? Voilà, autant le faire comme ça. Il n'y a personne qui veut voter Benoît Hamon ici ? Non ? Ok, bon.
Une blague.
Non, c'est pas du tout une blague.
Astrid Mesmorian, quand votre confrère au début vous dit on ne parle jamais du fond dans les campagnes.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai?
Non. Non, c'est juste que là, le film porte sur une temporalité bien précise, les deux derniers mois de la campagne où les programmes sont connus. On les a décortiqués à l'antenne et après c'est la joute verbale qui commence, quoi. On sent qu'on arrive vers un duel inévitable. On savait qu'il y aurait Marine Le Pen au second tour et c'est vrai que en tout cas à la télévision, mais en fait dans tous les autres médias, hein, dans tous les autres supports, également en presse écrite, c'est vrai qu'il y a cette petite guéguerre de la petite phrase et qu'on est peut-être un petit peu trop là-dessus, mais ça fait partie de la narration de la campagne également.
Justement, Thomas Legrand, à l'époque vous avez commencé, pardon, vous n'êtes pas si vieux, mais il n'y avait pas Internet.
Non.
Et alors, donc ça change pas mal de choses.
Oui, ça change pas mal de choses, parce que ce qui a fondamentalement changé, mais j'aimerais bien pouvoir parler de ce qu'on vient d'entendre. Mais bon,
d'accord.
D'abord,
Maintenant, finissez la...
Ce qui a vraiment changé, c'est que maintenant, on met, et je trouve ça plutôt pas mal, on met les hommes politiques face à leurs déclarations, leurs déclarations soit de l'année dernière, d'il y a 10 ans, mais même leurs déclarations de quand ils étaient à l'autre bout de la France. Ouais. Parce que moi, quand je couvrais Jacques Chirac, par exemple, on faisait 3 villes dans la journée, on montait dans son petit avion, on faisait 3 villes dans la journée, il pouvait dire absolument n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il pouvait dire A à Béziers, B à Calais, et c'est à Toulon, et encore si c'était public, ça pouvait être des publics sociologiquement différents. Et on ne comparait pas. On comparait, mais on ne mettait pas en regard. Parce que l'archive sonore, elle était très compliquée à garder. Oui. Elle était volumineuse. Quand on voulait retrouver quelque chose que quelqu'un avait dit, il fallait aller voir un vieil archiviste. Moi, j'étais à RTL. Il était sous les toits, rue Bayard. Et il nous disait, oh, d'accord, je vais retrouver ça. Et puis, le lendemain, on avait le bobino. On appelait ça le bobino.
Oui. Voilà.
Bon, et on avait le bobino sur notre bureau. Donc, on l'utilisait pas. L'archive est devenue s'est démocratisée avec Internet, et c'est techniquement est devenu possible pour tout le monde et tout le temps, et du coup il y a une sorte de tyrannie de la cohérence qui s'est imposée aux hommes politiques. C'est plutôt bien, moi je trouve. Je pense que le général de Gaulle, Jacques Chirac, peut-être pas le général de Gaulle, mais Chirac et Mitterrand n'auraient pas survécu 6 mois avec ce qu'ils disaient et ce qu'ils pensaient dans l'écosystème médiatique d'aujourd'hui. Et Hollande ou Macron, on peut les trouver absolument très chiants, mais parce qu'ils disent rien, ils disent toujours la même chose, ils sont cohérents. Et là, souvent, ils sont cohérents dans le vide, justement.
Ça grève cette liberté de parole, non, mais... Thomas Legrand, le samedi matin.
Bon, c'est tous les matins comme ça. Mais il faut... Je dis pas chiant. Mais il faut... En fait, pour être cohérent, ils sont obligés d'être creux maintenant. C'est ça qui est assez terrible.
Et deux mots sur Hamon, alors.
Alors, sur Hamon, non. Parce que.
À la recherche,
ça peut paraître.
C'est pas si absurde,
Nos auditeurs.
C'est absurde de les trouver en 5 minutes.
Oui, politiquement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Nos auditeurs se disent, mais alors, on fabrique l'info, voilà.
C'est ça.
On la fabrique. Mais en fait, si le rédacteur en chef lui a demandé ça, ou si Astrid a décidé de faire ça, c'est parce que c'est un truc on connaît tous des gens qui voulaient voter Hamon et qui se disent, oh là là, le Front National monte, oh là là, il y a une sorte, on va changer de monde. On s'aperçoit maintenant qu'on n'a pas vraiment changé de monde, c'est pas un nouveau monde, mais enfin bref. Donc il y avait une tendance comme ça, elle a voulu l'illustrer. Alors l'illustrant, est-ce qu'elle l'accentue? C'est le grand débat. Mais,
Et dans cette course effrénée, Astrid, vous faites une pause avec votre père sur le candidat Macron.
C'est un personnage fabriqué.
Par qui, papa?
Par un entourage, par sa propre ambition. Parce qu'il est ambitieux, il est dévoré par l'ambition. Il a des attitudes sur une estrade. Je parle de scène parce que j'ai toujours pensé que c'était du théâtre. Dès qu'il apparaît sur une scène en levant les bras, moi j'ai envie de... J'éclate de rire, parce que ça va dans tous les sens. C'est désordonné. Vive la République, vive la France. Vive la République, vive la France. Qu'est-ce qu'il connaît de la France? Et qu'est-ce qu'il connaît de la République?
Donc c'est son âge qui pose problème.
Oui, son âge pose problème. Mmh. Son âge pose problème, et malheureusement, je pense que son caractère pose problème aussi.
Et tu penses que c'est aussi une construction médiatique, Macron?
Oui. Je pense que c'est une construction médiatique sans être en mesure de dire, parce que je n'ai pas les preuves, c'est fait de briques et de brocs, comme on dit. Tu as, je te dis, un député socialiste du Finistère, tu as un ancien du RPR, tu as quelques centristes.
Mais là, le fait que Macron, en ce moment, essaie de tenir à distance les Hollandais...
C'est artificiel.
Pour toi, c'est faux.
Ah, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que son principal, son directeur de campagne est un député socialiste du Finistère, ma chère. On ne peut pas non plus raconter des salades à longueur de journée. Hein.
Et voilà, débrouillez-vous avec ça, Astrid Mesmorian. Mais d'ailleurs, Macron, il ne vous connaît pas, vous dites.
Mais je ne crois pas. Je pense qu'il connaissait le média que je représentais, que j'incarnais. Mais
même,
je ne pense pas que... Enfin, il m'identifiait physiquement, bien entendu.
Et il vous pose les mêmes questions à chaque fois qu'il vous voit.
Oui. Bonjour, vous allez bien? Comme ça, sans attendre la réponse. C'était systématique. Puis avec un petit clin d'œil aussi. Bon, ça, c'était pas désagréable.
Vous pensez que vous en avez fait un personnage médiatique, justement, comme le dit votre père?
Oh, bah, moi, à mon échelle, j'évolue dans un très large écosystème concurrentiel. Donc, moi, pas toute seule, heureusement. Mais forcément, oui, on donne une image d'un personnage. On participe à sa construction, c'est évident.
Mais on voit d'ailleurs, à un moment, Astrid dit à l'antenne et dans son papier, elle explique que Macron est à cet endroit, je crois que c'était à la montagne, parce qu'il veut qu'il y ait à l'image. C'est-à-dire qu'on intègre, enfin les bons journalistes, et Astrid en est, intègrent la dimension fabrication de l'image dans leurs commentaires pour montrer qu'ils ne sont pas dupes. D'ailleurs, elle a un rapport, on se tutoie parce que dans les lieux, on ne se connaît pas, mais journalistiquement, normalement, statutairement, on se tutoie. Bah non, on est connivants.
On n'ira jamais dîner, c'est promis.
On fait le même métier, donc non, c'est pas pareil, on n'a pas de rapport. Mais
on ira peut-être dîner alors.
Non. Mais on intègre cette dimension de communication et le rapport que tu as à la foule, à la meute, parce que c'est ça qui a aussi beaucoup changé entre 95 et maintenant, c'est que maintenant il y a une meute énorme qui sépare le journaliste de l'homme politique. Des tas de médias, des tas de caméras dont les trois quarts sont pas des journalistes. Moi je me souviens, Jacques Chirac, j'étais sur la petite moto et j'allais l'interviewer, il baissait sa vitre et voilà, on était sur la route comme ça et je tendais mon micro et je l'interviewais à sa portière. C'est plus possible.
Et autour des candidats maintenant, Astrid, il y a plein de communicants.
Bien sûr.
C'est ça le problème aussi, non ?
C'est le problème, mais en même temps, c'est une source d'information
aussi. C'est pas la solution, hein ?
Non, c'est pas la solution, mais c'est une source d'information précieuse, parce que justement, en fin de campagne, comme disait Thomas, il y a cette meute. Donc, l'accès physique aux candidats est de plus en plus compliqué. Alors, heureusement que derrière, on peut passer un coup de fil aux communicants quand on manque d'infos pour étayer et déployer un reportage avec du fond, justement, tout en triant les éléments de langage, bien entendu, mais heureusement qu'ils sont là, quand même.
Finalement, pour conclure avec vous deux, question à tous les deux, pourquoi vous êtes journaliste politique ?
Écoutez, moi, je pensais pas que ça me plairait, la politique. J'avais très peur qu'on me donne toujours la même réponse qu'aux autres, qu'il n'y ait rien d'authentique, qu'on m'assène justement trop d'éléments de langage. Mais en fait, moi, j'ai un peu l'impression d'aller au théâtre chaque jour. Et puis, je m'amuse parce que il y a quand même une dimension psychanalytique aussi. Qu'est-ce qui donne envie à un homme d'embrasser un destin national ? Pour moi, ça relève du mystère, donc ça m'attire. Premièrement. Et puis, d'autre part, ce sont quand même des gens lettrés, cultivés. On apprend toujours quelque chose avec un homme politique, même s'il veut livrer la meilleure version de lui-même qui sert sa communication, qui est une torsion de la réalité, toujours. Il y a quand même toujours quelque chose à en tirer.
Et vous, Thomas Legrand ?
Moi, j'ai commencé dans les années 80-90. C'était le moment phare de la communication. Et mon but, c'était... J'avais l'impression d'avoir pour mission d'enlever le papier peint de la communication. Pour ça. Et c'était aussi le début de l'expansion du Front National. Mais, et justement, alors moi, j'ai une différence. J'aime pas le côté un peu psychanalytique ou le roman des politiques. Ça m'énerve un peu parce que justement, on fait avaler plein de trucs. La politique française et nos institutions très personnalistes favorisent le côté romanesque, comme ça, la vie de Macron, la vie de... Je préférerais qu'on parle un peu plus des idées, et c'est compliqué. Hein.
Ça s'appelle Première campagne d'Audrey Gordon, ce que vous l'avez prononcé comme tel. J'aimerais bien avoir votre avis sur Première campagne.
Mon avis. J'ai trouvé que c'était un film assez intéressant, en fait, parce que ça mettait en avant tous les travers et toutes les possibilités que le métier de journaliste offrait, en fait. Et du coup, je trouvais que c'était une immersion assez forte dans le monde journalistique, plus que quelque chose qui était là pour mettre en avant Emmanuel Macron. Donc, ça m'a assez plu. Il y a certains plans qui m'ont touché plus que d'autres, notamment un vers la fin du film où on vous voit en ombre chinoise sur un écran géant pendant qu'Emmanuel Macron est en train de faire son allocution, etc. Ouais. Et il y a un contraste flagrant entre votre personnalité très sereine, très apaisée, et le bousigue allumé derrière avec ses bras en l'air, etc. C'est vraiment, franchement, c'était...
Ça vous êtes d'accord avec mon père, quoi.
Oui, sincèrement.
Eux ne suivent pas les meetings politiques dans la rue, ils expriment leurs rêves, donc leurs peurs, avec des larmes parfois, entre fêtes, taf, terrasses, pavés et vitrines. Une plongée dans la jeunesse, immersion totale, Mathieu Barrère, pour ce film, L'Époque.
Il y a mon producteur qui est inquiet.
À cause de quoi ?
Parce que le film il s'appelle L'Époque et il est tout en train de me demander mais c'est quoi l'époque, c'est quoi l'époque. Et du coup je me suis dit toi tu devrais avoir une idée.
Ouais, j'ai tout à fait une idée. Tu veux que j'écrive l'époque ici là ? C'est quoi l'époque ? Comme ça les gens savent de quoi on parle. L'époque, c'est le son que ça fait quand tu te prends un coup de matraque. Poc, poc, poc. C'est aussi le son des boucliers quand tu balances des bouteilles de verre dessus. C'est aussi le son des mecs qui ont le crâne creux. C'est le son du crâne de Manuel Valls contre celui de Macron. Incessamment sous peu.
C'est Rose, ici présente, qui s'exprime. L'époque, donc, le pari de l'après Charlie, Mathieu Barrère, jusqu'au présidentiel de 2017. 250 heures de rush pour 1h34 de film. Avec Thibaut Dufay, votre ingé son, vous parcourez les rues et vous rencontrez très tôt Rose. Elle était ce que je cherchais, c'est-à-dire...
Pas si tôt. J'ai mis un an à la rencontrer,
mais,
en fait.
Mais pourquoi elle était ce que vous cherchiez? Elle était quoi?
Je pense que... En fait, quand j'ai rencontré Rose, j'ai rencontré quelqu'un qui disait tout ce que j'avais envie d'entendre et qui faisait dans sa vie ce que je faisais avec ma caméra, c'est-à-dire rencontrer des gens continuellement. Et d'ailleurs, elle a une place à part dans le film parce que c'est la seule personne à qui, en 2 ans, j'ai demandé « c'est quoi l'époque ?» Qui n'était pas du tout un programme que je m'étais fixé, mais qui était une question que je me posais. Parce que, en fait, je ne savais pas ce qu'était l'époque. Parce qu'on est dedans, on peut pas savoir ce dans quoi on est, on ne peut pas regarder ce dans quoi on est. Donc... Et je me souviens, c'était Place de la République, elle était au sol en train de se faire des hiéroglyphes sur les jambes. Et,
des graphes, ouais.
Des graphes, et je l'ai regardé assez longtemps et je me suis dit, je sais qu'elle va me répondre.
Rose, vous parlez fort, vous interpellez. Qu'est-ce que vous... La rue, c'est quoi pour vous?
La rue?
Ouais.
La rue, c'est la vie, madame. Mmh. La rue, c'est un lieu d'expression sans limite, sans frontières, c'est une surface d'interaction, en fait, entre tous les éléments qui constituent la société et où on peut se permettre d'être sans filtre, en fait. Et du coup, c'est un lieu d'expression qui me tient à cœur parce que c'est un lieu où on rencontre des personnes de tous bords. Et je trouve que c'est un lieu où on peut interpeller facilement les gens, en fait. Simplement, par exemple, quelqu'un qui nous bouscule, on peut entamer une discussion avec lui. Enfin, je sais pas comment dire, ça facilite les relations, quoi. Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, Astrid Nesmorian? C'était un milieu que vous n'avez pas filmé, vous, donc c'est une...
Ce que j'ai pensé du film, c'est que ce qui m'a plu, c'est le côté portrait nocturne, oui, d'une jeunesse que j'ai trouvée très angoissée. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une résonance avec Première Campagne, c'est pas pour en reparler absolument, mais c'est sincère. C'est justement le côté que la nuit est propice au doute, au questionnement, mais aussi à la solitude. Si vous voyez la scène dans Première Campagne avec les réverbères, je trouve qu'il y a une résonance là-dessus. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est cette quête de liberté, cette quête de place, d'un rôle à jouer. Et en même temps, je trouve que tout ça est teinté d'une grande... Enfin, je trouve qu'on sent une souffrance chez vous. Et une tristesse par moment, sans doute une tristesse pour votre génération, mais peut-être aussi un petit manque d'espoir par moment qui m'a interpellée.
Moi, j'aurais pas dit un manque d'espoir, justement. Je pense que ma génération, elle est pleine d'espoir, en fait, et que les personnes qui font pas partie de cette génération, elles ont pas les yeux pour voir ce que nous, on ressent, en fait. C'est-à-dire que quand on parle entre nous, il y a plein de fois où on évoque un avenir, je sais pas comment dire, pas radieux, mais un avenir différent, en fait. On se questionne sur comment on pourrait mettre en avant des choses qui nous tiennent à cœur pour que, ensemble, on se sente mieux, quoi.
Oui, et en même temps, vous faites le constat que c'est impossible.
Pas impossible,
c'est
mais
comme un idéal qui s'éloignerait, quoi. Comme un horizon, quoi, inatteignable.
Non, je Mathieu. Dirais pas ça.
En fait, pour moi, la question de l'espoir, c'est... Enfin, je sais pas, peut-être que c'est trop chrétien pour moi, mais c'est juste que ça concerne l'avenir. L'espoir, le désespoir, c'est des questions qui concernent l'avenir. À l'époque, c'est un film sur le présent. Sur des sentiments, ah oui. Sur la joie, sur la tristesse, et tout ça mêlé. C'est pour ça que j'ai toujours... c'est pas un film sur le passé ou l'avenir. C'est vraiment... L'idée, c'était de saisir tout ce qui se passe dans la tête des jeunes, ici et maintenant.
Justement, il y a plusieurs jeunesses, et notamment celle en banlieue, avec ceux exclus du champ de représentation extrait.
Quoi? C'est quoi? Faut vous le dire comment? Que sans vendre la drogue, on n'a pas l'argent. Comment faut vous le dire? Bah... Nous, on n'a pas fait d'école comme vous, bac plus 4, 6, 7, 8, L'école l'a arrêté à 16 ans. Pourquoi? Besoin d'argent, famine. On a des familles à nourrir. Ah, c'est comme ça. C'est quoi? Terre gardin, dépôt prison. Le rêve, c'est quoi? Tu dors, 6 heures, tu te réveilles. T'as toujours des problèmes, on s'en bat les couilles du rêve. Nous, on vit 6 pieds sur terre. On vit pas 6 pieds sous terre, on vit 6 pieds sur terre. Toutes les épreuves là, qu'il y a là dans le monde, là, nous on les voit. Nous. Terroristes, attentats, blablabla, pia, que du cinéma.
Pas de démarche sociologique, dites-vous. Je ne m'intéresse pas à l'histoire, mais aux sentiments.
Parce que la sociologie, elle s'intéresse aux lois, et moi je cherche que des exceptions. Et Mala, le garçon qu'on vient d'entendre là, franchement j'aurais pu appeler le film « Six pieds sur terre ».
Oui.
Il a trouvé une formule incroyable.
Oui.
Qui arrive au bon moment en plus. Ouais.
Et il disait dans la même séquence, on n'a pas entendu là, il dit quelque chose qui s'adresse aussi aux politiques, aux journalistes. Il dit mais il parle à qui? Il parle à eux ou il parle à nous? Et je trouve que ça c'est fondamental. Ça c'est une question politique fondamentale qui est formulée par quelqu'un qui est dans la rue en fait.
Vous avez filmé Astrid.
Oui non, je m'interroge. Vous dites je m'intéresse aux exceptions. Mais votre film s'appelle L'Époque, qui a quand même un caractère, c'est un titre qui a un caractère monolithique, intangible. Si on s'intéresse aux exceptions, vous reconnaissez donc que c'est quand même une certaine vision de votre époque que vous avez.
Bien sûr, parce qu'en fait...
Qui a une puissance évocatrice peut-être un peu moindre sur cet aspect-là.
Parce que, en fait, la question c'est, quand on fait un film pour le cinéma, la question c'est pas de représenter quoi que ce soit ou qui que ce soit, ça voudrait dire partir avec une idée en tête. Et ça, je pense que, et d'ailleurs ça m'a beaucoup marqué dans votre film au début, vous cherchez des gens qui votent pour Hamon. Vous savez ce que vous cherchez. Et ça, c'est quelque chose que, moi, ma plus grande difficulté, c'est d'accepter que je ne savais pas ce que je cherchais. Et que c'était des choses que j'allais... Voilà, l'idée, c'était de rencontrer des personnes, rencontrer des gens, et que c'était les gens qui allaient m'offrir le cœur du film, et peut-être de l'époque. Donc, c'était pas qu'est-ce qui est représentatif, mais qu'est-ce qui me semble échapper à tout cliché, à toutes les images que je connais, en fait. Dans ce film, j'ai mis tout ce que moi, je ne voyais pas. Tout ce que j'entendais pas. Et pourtant, tout ce que je sentais autour de moi. Soit dans mes amis, soit dans la rue. Parce que j'ai fait beaucoup de photos de rue aussi, donc c'est...
Thomas Legrand.
Et ce qui est très intéressant, justement, la différence entre ces deux films, il y a un film qui parle de l'actualité et de la fabrication de l'actualité. Quand je dis fabrication, c'est pas négatif. C'est... Et un film documentaire qui doit justement aller chercher dans les interstices de tout ce qu'on voit toute la journée dans l'actualité. Ouais. Et ce film, là où je trouve le plan le plus extraordinaire, en dehors des moments où Rose s'exprime, qui crève l'écran, avec un mélange quelquefois de désespoir, de violence, et puis d'espoir, justement, et puis de... mais le moment, le plus symptomatique pour moi de l'époque, c'est ce plan incroyable qui dure, je sais pas, 30 secondes, mais il a l'air interminable.
3 ou 4 minutes, je pense.
Je crois savoir le deuxième.
Mais il est interminable du caméraman qui filme un policier filmant avec une perche à selfie.
C'est incroyable. Et
ce policier, c'est pas quoi dire, il ne dit rien, personne ne dit rien. On voit que la perche à selfie va essayer de filmer la tête de celui qui est derrière la caméra. Ouais. Et la caméra regarde on a l'impression, on se sent comme, vous savez, un petit chien qui regarde quelqu'un qui nous regarde. Enfin, c'est très bizarre. Et ça dit l'angoisse de l'époque. Parce qu'en fait, il n'y a aucun message politique dans ce film. Il y a un seul message. Il y a une angoisse de la société qui vient, qui est la société de surveillance. Or, la société de surveillance, elle nous angoisse tous. On la voit arriver. On sent qu'elle arrive. Eux la décrivent. Ils la décrivent tous d'une façon ou d'une autre et la décrivent comme une sorte de mur justement qui pourrait bloquer l'espoir que vous commenciez à... On voit quel est l'espoir de ces gamins, mais il y a cette société de surveillance et ce policier d'ailleurs, on le déteste pas, on le voit, il est là, c'est pas un méchant facho flic, c'est une sorte de type
qui est un pantin, fonctionnaire
qui est le pantin de la société de surveillance.
Et c'est vraiment étrange ce plan parce que il se passe des choses incroyables en projection en fait ce film, ce plan, il déclenche des fous rires.
Oui,
c'est complètement critique en projection,
moi,
c'est incroyable.
Il m'a glacé.
Et voilà, moi il me glaçait en fait parce que ce que fait le policier à ce moment-là, il me fiche.
Bien sûr, il fait.
Et pour moi, c'est très effrayant. Et en fait, la seule chose à laquelle ça correspondait dans mon esprit, la seule chose suffisamment glacée, c'était le son que j'ai enregistré le soir du 14 novembre 2015 devant le Bataclan. Et c'est le son que j'ai mis sur ce plan. Et ce qui est incroyable, c'est que les gens sont morts de rire, alors que le son qu'on entend, c'est un son de mort. Et je pense qu'il y a quelque chose de tellement gênant dans ce plan, de tellement horrifique.
On rit nerveusement.
Voilà, exactement. C'est un rire d'effroi, je pense.
Une absurdité du plan qui est là pour nous faire un peu rire. Mais au-delà du rire, il y a les larmes.
Mais c'est le plan de l'époque et de l'avenir effrayant aussi.
Oui.
Alors, vous avez filmé d'autres jeunes qui ont fait la même école que vous, Astrid. C'est Sciences Po, bon, un peu alcoolisé quand même.
Vas-y, prends la caméra et filme.
Ouais. Allez, trop bien.
Si tu fais comme Sandra,
qu'est-ce qu'on apprend à Sciences Po? Nique ta race.
À Sciences Po, on apprend plein de choses. On apprend comment est-ce qu'on gère le monde, comment gérer le monde.
C'est la maîtresse du monde. C'est la maîtresse du monde.
Comment la maîtresse de le monde.
Là, comment la maîtresse de le monde.
Attends, mais c'est trop.
c'est trop genre.
Meuf, t'es trop bien là. Vas-y, qu'est-ce que tu penses de Sciences Po, des gens de Sciences Po?
Alors, les gens de Sciences Po sont très intéressants, mais peut-être un peu trop sérieux à mon goût et un peu trop porté sur les études.
Plus de sexe.
En fait, Sciences Po, c'est une prépa.
Plus de drogue.
Liée.
On veut de plus d'alcool.
Ouais.
La drogue.
Donc là, il y a la Sorbonne et là, il y a Sciences Po.
La Sorbonne représente.
La caméraman est à la Sorbonne.
La caméraman est à la Sorbonne.
Ok, qu'est-ce que t'étudies à Sciences Po?
De tout.
De tout, c'est-à-dire
histoire, institutions politiques,
microéconomie,
microéconomie,
macroéconomie,
macroéconomie, sociologie,
médiaéconomie, tes sujets partiels,
bâtard,
franchement, super économie, intéressant, mais super
petit budget,
chiant de connard.
Le budget.
Ok, non, et t'as besoin de t'évacuer là, genre ouais, de quoi, etc.
De m'évader.
Mathieu Barrère, vous le trouvez beau ce plan, mais ils sont quand même caricaturés, ces garçons et filles de Sciences Po.
Non, pas du tout, je pense pas. D'abord, il y a un truc très important. Qu'on peut pas entendre au son, c'est que c'est Sandra, c'est une amie qui tient la caméra. Sandra a pris la caméra.
On entend.
Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait c'est leur propre regard qu'ils portent sur eux-mêmes. Et surtout c'est un moment de lâcher prise en fait. C'est-à-dire que là c'est toute la semaine qui remonte, c'est toutes les angoisses, c'est les cours. Il y a quelque chose, il y a une décharge qui est tellement importante qu'elle est à la hauteur en fait, je pense, de ce que des étudiants peuvent vivre toute la semaine, parce que en fait, je sais pas, même quand on est étudiant, on a des pressions énormes, donc c'est normal qu'on lâche à ce point.
Astrid, vous êtes d'accord avec nous ou pas? C'est un petit peu quand même caricaturé.
Oui, je trouve
si
aussi.
Tous les étudiants de Sciences Po sont comme ça, c'est pas se flinguer.
C'est pas se flinguer, en effet. Oui. Moi, j'ai pas du tout eu envie de me flinguer. J'étais très heureuse pendant ces deux années d'études. Non, c'est vrai que là, vous aviez un tout petit peu d'idées préconçues, vous qui dites ne pas en avoir là-dessus, je trouve. Un petit peu, vous plaquez quand même, vous projetez beaucoup de choses sur ces étudiants qui sont finalement, enfin, c'est pas si important que ça, Sciences Po ou pas Sciences Po.
Parce que là, vous parlez en fait comme si en fait il n'y avait pas de montage. La séquence, elle est reliée à un autre moment, à notre jeunesse, qui sont des jeunes de cité sur les champs. Mmh. Et ce qui m'intéressait en fait dans ces deux séquences, c'est que des jeunesses aussi différentes font au fond la même chose. Ils sont dans la rue, ils ont leur substance et ils font le même geste. Sarah, elle fait le même geste que Sofiane, comme si elle volait en fait. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on peut pas parler d'une séquence si on parle pas de ce qui précède ou de ce qui suit. Ça c'est hyper important.
Mais ils ont l'air, quand on entend comme ça et quand on voit, on oscille entre un sentiment de, ils ont l'air pathétiques et puis ce qu'ils disent est assez ridicule. Et en même temps, ils peuvent être un peu touchants. Et puis c'est
oui,
la
c'est
nuit.
C'est comme ça qu'on a tous perçu.
Mais c'est la nuit.
Bah, vous, parce que moi,
c'est la nuit. Ils ont un peu picolé. Et finalement, on y perçoit presque une petite tendresse. C'est pas si méchant que ça finalement.
Non,
c'est pour ça. Au début, on se moque un peu, puis on voit qu'ils ils ont un peu conscience du côté incroyable de ce qu'ils racontent. Il y a l'alcool, mais ils s'auto-caricaturent aussi pour nous renvoyer l'absurdité du monde qu'ils prétendent gérer demain.
Deux films sur notre monde d'aujourd'hui, ah, effectivement.
Ça me semble tellement sévère.
Mais non, mais on peut quand même avoir quelques petites...
Non,
mais
ça, et ça c'est vérité.
Non, il y a de la tendresse.
Non, oui, non mais je sais pas comment dire. Je trouve que c'est une manière de regarder la jeunesse qui me semble très morale, en fait. Très très morale.
La vôtre, vous voulez dire?
Non, pas la mienne. Non, parce que moi, je parle de montage, je parle de raccords. Je parle justement des raccords qui peuvent se faire entre des jeunesses très différentes.
Voilà.
Et là, on sent une sorte de, quand même, une sorte de condamnation, une sorte de petite moraline, quand même, qui est à l'œuvre. Excusez-moi.
Mais enfin, quand vous avez une gamine de 22 ans qui dit, j'apprends à gérer le monde, etc., voit bien.
Mais on voit bien la distance qu'elle a par rapport à ça.
C'est ce que j'explique. On voit bien que c'est le moment où elle le dit, où elle s'auto-caricature pour nous montrer l'absurdité de la chose. Donc, je trouve ce plan aussi magnifique.
Ça vous va, ça, Mathieu? C'est bon, on peut se quitter là-dessus. Vous restez,
Allez le voir.
Oui,
salle, oui, parce que je pense que ça déclenche des rires qui sont pas des rires de moquerie.
Et puis en plus, il y a une super bande musicale, alors ça, on n'en a pas parlé, mais vraiment, il faut aller le voir en salle. Ça s'appelle L'Époque, Mathieu Barrère, ça s'appelle Première Campagne, André Gordon. Vous restez tous les quatre avec nous, on se retrouve après Roméo Elvis, Malade.
Aujourd'hui, on est en 2016, l'insurrection de la bonté, l'hiver 54, tout ça, ça ne servait à rien. Emmaüs, regarde. Là, on a fait des abris, il y a des gens qui dorment dehors dans Paris. C'est pas mal, hein, de vouloir changer le monde. On est là, on dit qu'on est un peuple, une nation de gens libres. On sort même pas dans la rue quand on nous dit qu'il y a des gens, des femmes, des enfants, ils sont dans des camps. Dans notre pays, tout le monde s'en bat les couilles.
Une de perdu, retenir les choses comme elles sont.
qu'il y aura quand même de la peine. Tant qu'on se rappelle de la veille. Et j'étais pas dégoûté, mais tu m'auras donné raison. À vouloir faire de la merde, t'avais le pouvoir de l'admettre.
Et toujours paré pour les excuses. Désolé mais toutes mes ex s'usent. C'est mieux que toi, la tête pourtant posée sur son plexus. Y'a des fuites comme dans une écluse.
Tu sais très bien.
Et y'a des fuites même dans les églises. J'étais pas vraiment un mec lisse. Plusieurs fois j'ai considéré ça comme un versus. Alors qu'il fallait un mec pisse. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille.
Quoi, t'écoutes mes textes? J'en suis certain car les jalouses sont toutes les mêmes. Sous mes airs, j'en souffre encore. Courant d'air dans le parcours en or. Avec qui tu sors, avec qui tu sais, pourquoi ça m'intéresse? Mon talent m'a rendu célèbre, le pouvoir ça rend fêlé. L'amour ça rend bête, ça prendra toute l'énergie sans même faire de parenthèse. Pourquoi tu réponds pas? Je sais que t'entends les appels. J'arrive pas à croire que t'es réussi à tout zapper. Hein? Tu fuis de façon minable. On dirait les personnages qui font de la course à pied. Ou peut-être que c'est moi qui suis parano. J'ai trop fumé de pétard et je veux finir à l'alcool. Commencer la soirée comme faisaient les Ramos. Et la finir éclater, partir comme un petit rameau. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille.
Ça discute à mort pendant le film, pendant la musique. On va commencer les sorties. Laurent par Blanche comme neige de Anne Fontaine. Claire, c'est Lou de la jeune femme d'une grande beauté, suscite l'irrépressible jalousie de sa belle-mère. Maud, c'est Isabelle Huppert qui va jusqu'à préméditer son meurtre. Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, Claire décide de rester dans ce village. Il va éveiller l'émoi de ses habitants. Un, deux et bientôt sept hommes vont tomber sous son charme. Pour elle, c'est le début d'une émancipation radicale à la fois charnelle et sentimentale. Ça, c'est le pitch tel que l'a rêvé Anne Fontaine. Le conte et sa relecture moderne, le féminin qui triomphe du masculin. Sauf que tout cela est très poussif, surtout l'installation interminable. Long plan sur beau décor naturel, la montagne, la brume, la forêt. Bon, ça commence quand le film? La suite est truffée de références au conte, au cas où on n'aurait pas compris. Quant à la libido de son héroïne, soudaine, elle paraît totalement artificielle face à ces hommes dévirilisés, et rien sur le visage de Lou Delage ne nous raconte cette émancipation. Enfin, on regrette le peu de présence d'Isabelle Huppert dans le rôle de la marâtre. Elle y croit, ça se voit, elle l'incarne surtout, et notamment dans une étonnante scène de danse. En fait, c'est elle l'homme du film, c'est Huppert.
Oui, 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 et on s'en réjouit au moins de voir Isabelle Huppert dans le film, parce qu'effectivement, elle sauve peut-être le film, je sais pas, complètement. En tous les cas, le conte n'y est pas, hein. Globalement, ça ne va pas du tout. Il y a un humour lourdeau et caricatural quand même sur un jeu de massacre sur les personnages masculins qui est, oui, bon, bah, écoutez, allez, on va passer
à la Familia. Alors, la Familia, c'était à la semaine de la critique en 2017. Oui. Merci au distributeur Tamasa de nous le faire découvrir. C'est de Gustavo Rondon Cordova. Pedro, 12 ans, erre avec ses amis dans les rues violentes d'une banlieue ouvrière de Caracas. Quand il blesse gravement un garçon du quartier lors d'un jeu de confrontation, son père, Andrés, le force à prendre la fuite avec lui. Pour se cacher, un film sur l'exploration des liens familiaux, mais aussi sur un contexte, la grave crise économique et politique de ce pays.
Ça fait maintenant plusieurs semaines que, chaque semaine, on a des bonnes nouvelles cinématographiques du continent sud-américain. Oui. Et on s'en réjouit. Il n'y a pas que la flore, il y a la flore évidemment, 14h, merci. Mais il y a aussi, chaque semaine, des films d'auteurs qui viennent nous rappeler que ce continent évidemment existe, si on en doutait. Et avec des films socialement extrêmement forts, c'est le cas de celui-là, qui se passe, vous l'avez dit, à Caracas. C'est un premier long métrage, en plus, très très bien filmé, avec un vrai propos cinématographique qui consiste notamment à multiplier les gros plans sur ces deux hommes, de façon très serrée, très proche, on est très très proche d'eux, et avec une ville qui est en fond, sociale, une ville dont le mot d'ordre est simplement la violence. Dans cette ville, dans ce pays, manifestement, on est tour à tour voleur et volé, ce qui est quand même un double statut pas très facile à vivre.
Caracas, Venezuela.
Caracas, Venezuela, absolument. Et donc, on est tout à fait séduit, je dirais, par le propos cinématographique du film, qui est aussi, effectivement, la recherche de liens entre un père et son fils.
Alors là, c'est le grand film de la semaine, ça s'appelle Les oiseaux de passage, oui, de Ciro Guerra et Cristina Gallego. Dans les années 70, en Colombie, une famille d'indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand l'honneur des familles tente de résister à l'avidité des hommes, la guerre des clans devient inévitable et met en péril leur vie, leur culture, leur tradition. C'est le film sur l'origine tribale des cartels, la matrice de tout ce qu'on a pu voir sur Escobar et consorts, ou comment le commerce de la drogue a totalement déstabilisé une région, une population et surtout des coutumes ancestrales. Sujet tabou en Colombie, nous avait confié les réalisateurs à Cannes, et même pression sur les cinéastes colombiens pour ne pas raconter cette histoire-là. Ils voulaient justement la raconter comme une réponse au cinéma, surtout américain, qui glorifie les trafiquants et ne rend pas compte de la tragédie de cette histoire. Pouvoir des esprits, croyances, malédictions, le film s'inspire des contes de Garcia Marquez et d'un certain cinéma américain, notamment Chimino et Peckinpah. Il évoque aussi une société matriarcale, des femmes puissantes et actives dans le commerce de la drogue, des femmes souvent absentes des films sur les cartels.
C'est vrai, en fait c'est un chef-d'œuvre parce que c'est Lévi-Strauss chez Escobar.
Oui.
Et vraiment ça donne un regard incroyable qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. C'est une sorte de tragédie en 5 chants, en 5 actes, avec une chronique de mort annoncée, donc le programme il est là, on s'y attend. Mais cette façon de regarder effectivement ce qu'on croit toujours connaître, à savoir les films de Scorsese, etc., à travers ce regard-là, qui a un regard sociologique puissant, traditionnel, sur une mafia qui est en train de se constituer sur la base, vous l'avez dit, des sociétés absolument conservatrices et traditionnelles, c'est passionnant.
Ça s'appelle Les oiseaux de passage. Genèse du Québécois Philippe Lesage, la naissance des premières amours ébranle 3 adolescents, un sujet apparemment rabattu au cinéma. Laurent m'est traité ici avec justesse, finesse, pudeur.
Ben oui, parce que oui, alors le désir adolescent, ses contrastes, ses jeux, ses émois, ses émotions, on a l'impression que tout ça a été balisé 25 000 fois par la littérature et le cinéma, c'est vrai, donc ce qui compte, c'est le regard. Ben le regard ici de ce cinéaste canadien, il est très intéressant, Philippe Lesage, parce que effectivement, il arrive à décrypter des choses à fleur de peau, sensibles, sans aucun voyeurisme, et il y a une façon extrêmement sensible de décrire ses états d'âme, ses états d'esprit, adolescents qui sont en fluctuation, qui sont en interrogation. J'aurais une toute petite réserve sur la troisième partie du film qui est un peu hors sol par rapport au reste, qui est un peu, à mon sens, plaqué, qui parle d'ailleurs d'autres gens, qu'on ne comprend pas forcément très bien sa place, mais disons pour les deux premiers tiers, il faut aller voir Genèse.
Ray et Liz de Richard Billingham, il est anglais, banlieue de Birmingham dans les années 80. Ray et Liz et leurs 3 enfants se débrouillent tant bien que mal dans une existence déterminée par des facteurs qu'ils ne maîtrisent pas. Le photographe et cinéaste Richard Billingham retrace en 3 souvenirs et 3 époques différentes, le quotidien tumultueux de sa famille. Richard Billingham, en fait, il invente une nouvelle couleur. C'est plus noir que noir. À côté, Mike Lee, c'est de la petite bière. Ray et Liz, c'est un portrait donc du prolétariat sous Thatcher, sur le carmon d'un paysage familial, sans avenir, mais sans apitoiement non plus, format carré, lumière blafarde, un peu comme ses photos, sur un non-horizon, une esthétique du malheur et de la fatalité très rude à regarder en face. Une épreuve donc, supporter cette esthétique-là. Ça s'appelle Ray et Liz. Et on termine avec Les grands squelettes, Laurent, de Philippe Ramos, des monologues intimes sur le désir, la passion, la mort, avec Françoise Lebrun, Melville Poupeau, Denis Lavant, Jean-François Stévenin, Jacques Nolot, Jacques Bonafé Voilà.
Oui, ben c'est les, oui, oui, ben c'est l'objet filmique non identifiable de la
oui,
semaine.
Ça on peut le dire.
Oui, absolument. C'est une sorte, c'est comme l'improbable rencontre entre Nathalie Sarraute pour les monologues intérieurs et Raymond Depardon pour les images fixes, parce que le film n'est fait que de photographie. C'est très très beau. C'est dans Paris. C'est de 8h du matin à 22h la nuit. Il y a effectivement tout ce beau casting que vous venez d'indiquer qui parle de quoi? De l'amour, de la passion interdite, de la solitude, de l'abandon. Bref, de tout ce qui nous constitue, nous, ces amours intranquille que nous sommes. Le film est magnifique, il peut irriter, il peut aussi, comme ce fut le cas avec moi, totalement séduire. Ça s'appelle Les Grands Squelettes de Philippe Ramos.
Et enfin, deux reprises de Fellini, Les Clowns et Prova d'Orchestra.
Ben, on ne peut que recommander d'aller voir ou revoir sur grand écran ces deux chefs-d'œuvre du maître Fellini.
Un festival,
c'est à Paris, au Forum des Images, du 18 au 21 avril, où vous allez rire à un drôle de festival, avec Alex Lutz, Patrice Lecomte, Agnès Jaoui et bien d'autres qui font la programmation.
Et maintenant, les cadeaux, Laurent.
Diantre, les cadeaux, absolument, tout à fait. Alors,
on a un petit peu le temps.
Pour vous, Rose, on est allé chercher, qui vient de sortir...
Ah, c'est des vrais cadeaux.
Oui. Intruder, un film de Roger Corman, qui est un grand spécialiste du film du genre américain. Mais là, il a fait vraiment quelque chose de très particulier. Une histoire incroyable de ségrégation raciale aux États-Unis. On a pensé que ça pouvait vous intéresser. C'est de la vieille histoire, mais pas du tout, vous verrez. Il y a plein de résonances actuelles. Et les bonus sont remarquables, avec notamment un entretien avec Roger Corman, c'est chez Carlotta. Voilà, on vous recommande ainsi qu'à nos auditeurs ce film.
Ok, merci.
Pour vous, Astrid, un film qui s'appelle Amanda de Michael Hirst, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est sorti l'an passé avec Vincent Lacoste et Isor Multrier. C'est une très très belle réflexion sur la résilience, sur un après-attentat et sur la façon dont les choses en famille peuvent se régler. Pour vous, Thomas Legrand, vous, le politologue, eh bien, ce sera La Poursuite implacable de Sergio Solima, qui est paru chez M6 Vidéo. Je ne sais pas si vous aviez vu ce film dans les années 70. C'est un thriller politique sur une musique d'Ennio Morricone à tomber. Et c'est vraiment dans la grande tradition du cinéma italien qui fait à la fois du suspense et de la politique ensemble.
On a encore 10 secondes.
Merci beaucoup.
Allez, et bien pour vous, Mathieu Barrière, Hitler connaît pas. Un film de Bertrand Blier, c'était dans les années 60. Et il fait le pouce levé. Une façon dont Bertrand Blier, effectivement, interroge, comme vous, la jeunesse de son époque.
Merci beaucoup.
Et c'est chez Studio Canal.
Merci Mathieu Barrière. Merci. Rose Folie, merci Astrid Mesmorian, merci Thomas Legrand.
Merci à vous.
Deux films à voir mercredi prochain.
Allez-y.
Ça s'appelle L'Époque et Première Campagne. Et on vous laisse les clés du générique.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Hugo Combes s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Sonia Leglen.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Rose, j'y étais.
Et moi, Astrid Mesmorian, j'y étais.
Et moi, Thomas Legrand, j'y étais.
Et moi, Mathieu Barrère, j'y étais.